Et bienvenue à tous dans cette 9e émission de Gazoukazou. J'ai pas enregistré depuis 3 ans et on reprend aujourd'hui avec un duo iconique et que j'adore, Emma et Anissa.
Coucou!
Et salut Charlotte!
Je peux rajouter des applaudissements, sachez-le, j'ai les boutons qui sont possibles. Voilà, on n'entend pas, mais sachez que là, des gens sont en train d'hurler vos prénoms de toute leur force. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les précédents épisodes. Disons que oui, mais à vos yeux, j'ai des doutes. Mais l'émission commence par une présentation croisée, c'est-à-dire que vous ne vous présentez pas vous-même. Donc Anissa va avoir 1:30 pour pitcher Emma à nos auditeurs, à nos 3 auditeurs. Et seulement après, Emma pitchera Anissa. Laquelle de vous a envie de se lancer en prums?
Eh bien, je peux commencer. D'ailleurs, aujourd'hui, on sera 25 auditeurs et pas 3.
Mais peut-être 200, je ne sais pas. Ça va peut-être incroyable.
Alors, je vous présente Emma Paul, comédienne improvisatrice de talent avec une voix redoutable. Non seulement cette voix, elle peut vous hypnotiser par ses notes magnifiques qu'elle fait en chantant, mais en plus, elle peut vous faire complètement bégayer lorsqu'elle incarne une sorte de galinacée quelconque. Spécialiste des animaux en tout genre, que ce soit par son jeu ou par ses vêtements, vous la reconnaîtrez par son talent bestial.
Oh, waouh!
Voilà. Je n'aurais pas su dire mieux. Et à ma droite, vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez avec sa voix douce, finalement, elle aussi, sa voix iconique, Anissa Behrani, l'improvisatrice la plus jeune que vous connaissez et qui pourtant a une carrière 3 fois plus longue que la vôtre. En effet, c'est une star depuis sa plus tendre enfance parce qu'elle a commencé, vous étiez même pas née alors que vous êtes plus vieux qu'elle. Que dire, un talent qui... s'exprime à travers tellement de manières, ses grimaces iconiques, sa narration inégalée, ses histoires toutes plus transcendantes les unes que les autres, du jeu le plus absurde au jeu le plus touchant, elle sait tout faire.
C'est incroyable. Est-ce qu'il y avait une obligation d'utiliser des adjectifs qui commencent par « i » Je ne sais pas, mais attendez, c'est pas mal. Mais moi, les meufs, moi, je vous connais que depuis la BTP. Je ne vous connaissais pas du tout avant. C'est Rénal qui vous avait fait venir dans la troupe. Il vous avait saucé, sachez-le, fortement, en disant que vous étiez toutes les deux deux diamants bruts qu'il restait juste à tailler et que vous alliez probablement faire des choses incroyables en impro. Eh bien, il n'était pas si loin du compte. Après, peut-être vous êtes juste encore en route. Je vois que, sachez que là, Emma est en train de lire les questions pendant que je vous parle. Elle est en train de regarder toutes mes notes. Mais je pense que, bah, du coup, ouais, je sais pas depuis combien d'années je vous connais. 3-4 ans, peut-être plus. Peut-être
ouais, quelque chose comme ça. Ça peut-être que 2021 le temps. Ou 2022.
Mais je pense que vous deux, vous vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps. Donc oui, vous vous êtes rencontrés
depuis 10 ans.
Du lycée, non?
Ouais, au lycée, c'est d'ailleurs notre 10e année d'anniversaire.
Oh, c'est le jubilé!
Ouais, on se connaît du lycée et on se connaît notamment de l'atelier d'impro du lycée. Parce que oui, l'impro, elle est là depuis le début.
Allez, bah, qui menait l'atelier à l'époque? On va lui faire un petit coup.
On va lui faire un petit jingle, je pense.
Quentin Vigou, joli!
Ouh, imbattable!
Ouais, en fait, il y avait un atelier d'impro dans notre lycée, Féderbe, où du coup, moi, j'ai commencé en seconde et Anissa est arrivée l'année de notre première et a du coup rejoint l'atelier parce qu'elle avait déjà fait de l'impro avant vu que c'est une professional depuis son plus jeune âge. Et du coup, bah, rencontre et de fil en aiguille, d'atelier en atelier. On a continué après le lycée, on a rencontré Rénald. Sur qui on est retombé 2-3 ans après avoir été en atelier avec lui complètement par hasard à
le chercheur de diamants quoi.
Qui nous a fait hey, mais les meufs, je suis dans une troupe, vous voulez pas venir? Et on a fait ouais, grave.
Bah c'est vrai que ça, enfin je crois qu'à l'époque ils cherchaient des filles, ils s'étaient retrouvés
ouais,
avec des filles qui partaient et en fait être que entre eux et ils ont dit bon bah des nanas s'il vous plaît, pitié. Moi je voulais parler de Why Not parce que c'est votre compagnie actuelle et ouais. Je pense qu'on n'est jamais meilleur que quand on parle des choses qu'on aime à mon avis et bah ouais, est-ce que vous voulez nous parler de la création, de la direction que ça prend, des formats que vous faites?
Alors Why Not, c'est une compagnie qui est née un peu par hasard sur un coup de poker il y a quelques années. En fait, au lancement de l'Impro Club du Festival d'Avignon, dont certains ont sûrement déjà entendu parler, il y a 3 ans de ça, Il y avait un appel à candidature et à projet de spectacle et avec Hugo Mézine, on avait des idées de spectacle qui nous traînaient en tête depuis un moment qu'on voulait créer et on s'est dit oh, vas-y viens on postule, on oui. tente. Et en fait, énorme hasard, on s'est dit, la compagnie n'existe même pas vraiment, le spectacle non plus, c'était un énorme coup de poker. Sauf qu'ils nous ont rappelé en disant, hé, hey, ce truc a l'air super, venez.
Donc c'était beau sur le papier.
Ouais, et okay. en fait, du coup, on a tout créé en accéléré, c'était super parce qu'il y a eu plein de résidences qu'on a fait en intensité, on a dû monter le spectacle super vite, c'était super intense. Avignon, ça a été une expérience qui nous a permis de roder nos différents spectacles à fond la caisse et du coup après de pouvoir les rejouer en remontant dans le nord. Et là depuis cette année, Anissa a repris la direction de la compagnie et du coup je vais lui laisser la parole pour ouais. la suite.
Tout à fait. Alors là cette année du coup on repart un peu à zéro. On a quelques spectacles qui restent dont Soliloque qui est celui qui tourne le plus actuellement. Mais on est vraiment sur une phase de création de nouveaux spectacles, de nouveaux formats. On essaie de faire des spectacles qui nous ressemblent surtout, pas mal de mise en scène, pas mal d'histoires et pas on va pas essayer de trouver l'idée la plus fun, on va essayer de trouver l'idée qui sera la plus stylée, en gros on parle un peu là-dessus et là l'idée ouais, c'est de mettre en place tout ça. Et du coup, qui dit reprise de compagnie dit recrutement dans la compagnie aussi. Donc cette année on a recruté Julien Tirloir et Juliette Lefranc. Et qui sont des éléments hyper importants là pour la compagnie maintenant parce que ça ils intègrent la nouvelle dynamique et la nouvelle dynamique de Why Not, c'est les nouvelles personnes qui la rejoignent aussi et voilà tout.
Tout à l'heure pour nos présentations, on avait l'injonction de mettre des adjectifs en i. Cette année pour le recrutement, on s'est mis l'injonction de prendre des prénoms en ju.
D'accord.
C'est les juju, c'est les nouveaux.
Et moi, je vous ai vu dernièrement dans Histoire occulte, qui était le test, je pense, n'avait pas été joué avant. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le processus de création ? Comment on crée un spectacle ? Et après la première, comment on l'améliore ?
Bien, en fait, Histoires occultes, c'est un projet qui date de avant Why Not, en tout cas en parallèle de Why Not, dont on discute à deux. Enfin,
qui oui, c'est les soirées tarot, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Vas-y, parce qu'en vrai, c'est ton idée.
Alors, il faut savoir qu'avec Emma, on aime tirer les cartes de tarot. Voilà, on fait ça, ça nous arrive. Et c'est au détour d'une conversation, on s'est dit, en fait, si on intégrait le tarot dans l'impro, ça pourrait être hyper intéressant parce que littéralement, le tarot, c'est donner des événements, la suite de ce qui va se passer. Donc on s'est dit, en fait, si on mélange ça à l'impro, ça va être trop bien.
J'ai mélangé mes deux passions.
On a mélangé nos deux passions. Et du coup, c'est à l'époque où le hangar faisait les stages d'impro.
Okay.
Et il y avait les ateliers résidences où on pouvait s'installer au hangar pendant une journée ou une après-midi et bosser sur un format quelconque. Ouais. Et on a mis ça en place, donc on a bossé sur une journée entière là-dessus. Et le projet a pris la poussière pendant des années. Il a traîné un peu, on a essayé de le réinsuffler de temps en temps, mais bon, ça n'a pas trop pris pendant un moment.
Pourquoi ? Parce que, est-ce que ça ne parlait pas aux autres ou il y avait trop de formats en même temps ?
C'est parce qu'on avait 12 000... Il y a eu la création de Why Not notamment qui nous a pris beaucoup de temps. On a toutes les deux rejoint des troupes chacune de notre côté où on avait plein de projets en simultané. Et du coup, on avait ce truc-là dormant à côté où on savait qu'on allait le mettre en place à un moment. Mais juste, je pense qu'il n'y avait pas le temps...
C'est ça.
Le temps consacré. Et du coup, je pense que le renouvellement de Why Not cette année et le fait que Anissa se retrouve en gestion et moi à beaucoup l'accompagner là-dessus, on s'est dit « Eh, mais oui. est-ce que ce serait pas le
c'était l'occasion de
ressortir ça de derrière les fagots ?»
Surtout que comment on a mis en place la création de ce spectacle, la première fois qu'il a été joué, c'est pas vraiment la fois où t'es venue.
Quoi ?
La première fois qu'il a été joué, c'était sur Soliloque. Je l'avais testé en solo sur une date de Soliloque et je me suis dit, ok, c'est trop bien, c'est trop bien, génial. Il faut le jouer.
Oui, en fait, j'ai vu passer que t'avais dit tarot. Ok.
Mais voilà, donc.
Comment vous vous préparez pour le peu moi que j'avais de retour, Raphaël m'avait dit on a préparé chacun un univers, on l'a pitché aux autres, ouais. Donc il y avait une préparation solo.
Histoires occultes, pour chaque date on choisit une période pour avoir une ligne directrice de la date. Là, on avait choisi le Moyen-Âge et du coup, on s'est vu plusieurs fois en résidence où on a brainstormé ensemble. Ok, Moyen-Âge, on a envie de jouer quoi ? C'est quoi toutes les catégories possibles et imaginables qu'on pourrait jouer ? On en a pitché plein. On en a choisi trois. Il y avait l'Heroic Fantasy, les pirates, que je regrette toujours de ne pas avoir joué.
C'est toi ?
Et l'Inquisition.
C'est toi qui avais préparé les pirates ?
Non, j'avais pas préparé les pirates, mais j'adore les pirates, donc j'avais très envie de jouer les pirates, parce que c'est marrant les pirates.
Savoir que sur toutes les résidences, elle a repoussé les pirates sur tous les tests.
J'étais en mode, oh, tirage au sort, zut, les pirates, quel hasard ! Et l'Inquisition, où on s'est dit, tiens, en vrai, c'est hyper différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça peut être super stylé et faire un truc un peu plus grave. Ce qui a d'ailleurs été choisi par le public et c'était super. Et en fait, du coup.
J'avais pas voté pour ça.
T'avais voté pour les pirates ?
Non.
Oh, personne n'est parfait. mais du coup, en fait, après, chaque, trois membres de la compagnie, pour le coup, c'était Raphaël, Juliette et Julien, ont chacun bossé sur un des trois sujets pour. Faire une sorte de mini restitution et de mini guideline pour les autres quand on a rebossé en résidence.
Mais c'est quoi l'idée ? C'était avoir les codes, pas commencer à sortir un truc anachronique ou enfin.
Ouais, un peu, ouais. Au-delà de l'anachronisme, c'était aussi tous se retrouver sur la même direction parce que en fonction des registres, on peut partir sur quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus comique ou juste se faire une idée globale et passer à côté de la catégorie. C'est donc ça. C'était vraiment histoire de nourrir un peu
des
le
types
spectacle.
De vocabulaire, des trucs tout con. C'est rigolo, mais on s'adresse au pape en disant votre sainteté et à un cardinal en disant votre excellence. Et quand tu fais un truc sur l'Inquisition, c'est le genre de petit détail qui fait la différence.
Je crois, oui, t'as repris plusieurs fois les autres sur comment s'appelaient les gardes du pape. Et ils étaient dans
le Suisse.
Il y avait un énorme déni de ton explication qui est revenue deux, trois fois. Non, mais je suis pas suisse en fait. C'est vrai. Est-ce que après le spectacle, enfin, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce que ça a donné ce que vous attendiez ?
Ouais. Franchement, pour une première, moi personnellement, j'ai trouvé ça trop bien.
Ah oui, non, mais moi j'ai adoré. Mais après, peut-être ça a pris une direction non souhaitée. Ça, je ne peux pas, je ne sais pas.
Je pense que je l'imaginais, en tout cas moi, sur la création à l'origine, un poil plus sérieux. Étant donné que, en tout cas, sur les trois registres qu'il y avait, l'intuition, c'était vraiment le plus sérieux des trois.
C'est pas trop le fun, quoi. Enfin.
Ouais, c'est pas trop le fun. On tue les gens parce qu'ils ont éternué un peu trop fort. Donc, oui, c'est pas la verre la plus fun de l'histoire. Mais du coup, je pense que je m'étais un peu calée sur un truc un poil plus sérieux. Mais finalement, je trouve ça bien rendu au niveau de l'atmosphère générale. Mmh. Et surtout, c'est l'énorme satisfaction d'avoir tout le décorum de ce spectacle qui fonctionne bien.
Oui.
Parce que... Là, la direction de Why Not, en tout cas pour la suite, c'est vraiment de travailler le spectacle du moment où le spectateur il entre dans la salle, au moment où il en sort, et pas seulement au moment où les comédiens entrent sur scène, parce qu'en fait, quand on va voir un spectacle, on est dans l'univers du spectacle au moment où on entre dans la salle. Et ça, c'est un point qu'on a vraiment mis en avant sur Histoires Occultes, notamment.
Est-ce que vous avez des envies de décorum en plus ?
En fait, là, sur Histoires Occultes, on a déjà testé plein de choses. Peut-être que maintenant qu'on a testé et qu'on a vu ce qui marchait, on pourra l'emmener plus loin. Mais il y avait tout ce truc de... En même temps, c'est interactif, mais en même temps, on veut créer une ambiance. Donc, est-ce que le public, dans l'interaction, va coller à cette ambiance ? Là, on a testé des trucs. C'était trop bien. On pensait pas que ça marcherait si bien. Et ça a super bien marché, donc c'était super. Et en fait, maintenant, la réflexion, ça va être comment rendre l'immersion encore plus complète, comment l'amener encore plus loin. Et c'est chouette. Moi, je rebondis aussi sur ce que tu dis sur le fait qu'on l'imaginait plus sérieux. C'est là où, pour moi, les cartes, elles sont super. C'est que nous, Inquisition, on s'en est fait une idée. On a bossé plein de trucs, on a bossé plein de références historiques. Et quand, au moment du climax de la gravité, que tout le monde va mourir... tu pioches une carte et que c'est Fiesta qui en découle, tu dis, c'est parti, en fait.
Ça devait être célébration, mais le mot devait être plus.
C'était fête. Mais en fait, c'est trop bien parce que tu te dis, non, c'est aussi ça le principe du jeu. Et c'est là où c'est cool, c'est que le public est surpris, mais nous aussi sur scène. Et du coup, c'est hyper stimulant en tant qu'expérience de comédien-comédienne.
Est-ce que tu t'es sentie happée par l'appel du fun, à un moment de dire « Oh, je commence à doucement vriller
». Je sais... Non, parce que je pense que justement, c'était... clairement, l'appel de la carte est fun, et c'est en même temps comment injecter ce fun et pas renier complètement ce qui est pioché, parce que sinon, il n'y a plus de principe du spectacle, et en même temps coller à l'histoire de peut-être que cette scène était absurde, mais ça n'empêche que c'est terrible, parce qu'il y a trois personnes qui sont mortes à la fin. Donc peut-être que le cadre
en soi
était...
l'histoire n'était pas drôle de base,
c'est que
même si on a quand même beaucoup ri, mais
et fun et absurde, mais en fait ça, le fond reste très sérieux Et du coup, là-dessus, je pense que c'est cool. Enfin, il y a moyen de faire des trucs très chouettes.
Bah ouais, moi, j'ai hâte de revoir. J'ai pas encore vu vos soliloques. J'avoue, j'ai pas de retour sur ça.
On joue la semaine prochaine.
Ouais, bah oui, bah, vous connaissez.
Et en plus, les deux personnes de Why Not, voilà, vous avez l'exclusivité. Ça n'a pas encore été annoncé sur les réseaux sociaux.
Oh là là.
Mais ce sera nous deux.
Et oh là là.
Avec deux invités exceptionnels.
Et ça, c'est surprise.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Oh, c'est magnifique, c'est trop bien pitché. Tout à l'heure, vous avez parlé des différentes troupes. Présentement, vous avez que Why Not. Toi, t'as encore Collectif 9h36.
Ouais.
Les
et
deux.
Et la CIA, et alors, la... qui est pour le coup dormante actuellement pour nous deux, mais dont on est encore membre.
Ouais, vous êtes encore membre de la CIA.
Ouais.
Mais vous n'avez pas joué avec eux depuis...
Et moi, depuis la rentrée, mais je fais de la presse beaucoup ces temps-ci. Okay. Parce que comme j'ai été beaucoup absente en coaching...
Oui, pour pas pénaliser les groupes.
Bah, c'est pas cool, quoi.
Ouais, c'est sûr.
De piquer la place aux autres.
Moi, je crois que la dernière fois que j'avais joué avec la CIA, c'était sur le déplacement à Rennes. Et pour le coup, là, c'est juste un point de vue timing. Je n'ai plus du tout de temps à consacrer là-dedans. Mais ouais, c'était le déplacement chez les Fripoules.
Donc, et le collectif 9h36, je sais pas forcément exactement comment vous fonctionnez, en fait. Quel est enfin, qu'est-ce que toi, parce qu'il y a quand même une histoire de travail de groupe, vous travaillez ouais. Les différents formats, mais je sais pas, moi j'avais réfléchi, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le travail de groupe, et là pour le coup ça peut être pour Why Not aussi, qu'est-ce que vous, personnellement, vous aimez bien dans cette partie bosser à plusieurs?
Moi j'ai l'impression que des différentes troupes ou collectifs où j'ai été... en fait, moi, ce qui me plaît, c'est les individualités et les gens avec qui on est. Parce que déjà, chaque troupe dont j'ai fait partie avait une énergie très différente. Et du coup, ça apporte des choses humainement très différentes, mais aussi artistiquement. C'est que la manière qu'on a de jouer à la CIA n'est pas du tout la même que la manière qu'on a de jouer au collectif, n'est pas du tout la même que la manière qu'on a de jouer à Why Not ou à l'époque à la BTP, etc., etc. Et du coup, moi, je trouve ça hyper enrichissant, déjà d'un point de vue humain, parce que c'est des entités avec des tempéraments, mais complètement différentes d'une troupe à l'autre. Et du coup, humainement, c'est chouette, parce que ça fait des amis différents. Et artistiquement, ils proposent des choses tellement différentes que c'est pareil, c'est hyper nourrissant dans le jeu.
Ok. Toi, Anissa, est-ce que tu es en manque de troupes ou pour l'instant tout va très bien
De troupes, pas spécialement. De jeux, si, très fort. J'ai très faim d'impro en ce moment. Même si je sais que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Donc, même si j'avais plus d'occasions, j'aurais pas forcément plus la possibilité de jouer. Mais moi, ce que j'aime dans le côté troupe, et là, je vais parler de Why Not pour le coup, vu que c'est celle qui est encore active de mon côté, c'est le côté de travailler. Pour le coup, Why Not, c'est vraiment la partie professionnelle. Donc, c'est le fait de travailler avec des personnes qui non seulement sont nos amis dans la vie de tous les jours, en tout cas sur Why Not, et en plus de ça, pouvoir avoir leurs avis, qu'ils puissent nourrir et qu'on puissent facilement se dire en fait là non je suis carrément pas d'accord avec toi et parfois et on va être transparent parfois se prendre la tête comme pas possible sur un projet et faire on se voit la semaine prochaine ça te dit
ouais, apéro.
Carrément
bon apéro
ça, aucun problème. C'est la capacité à vraiment cloisonner les deux univers même si on travaille ensemble même si on se prend le bec sur certains projets même si on n'est pas toujours en face sur tout. À côté de ça, quand on est en dehors, c'est quand même. Enfin, on retrouve le côté individuel et humain.
Et ça, est-ce que ça, c'est davantage. En fait, on en a pas parlé, mais vous êtes passé pro, en fait. Je ne sais pas. La frontière, elle est un peu infime. Je pense qu'on y passe un peu progressivement. Est-ce que ce côté pro-là, dont tu parles, finalement, de dire on a des temps vraiment de travail et des temps perso, est-ce que ça existait déjà quand vous étiez en amateur ou c'est vraiment un truc que vous avez découvert là, ces derniers temps, finalement
Ça existait déjà en amateur, mais en moins assumé, je pense. Le côté travail, temps consacré à un spectacle organisationnel, que ce soit sur tout l'aspect mise en place d'un spectacle en amont ou billetterie, ça existe dans l'amateur, c'est très actif dans l'amateur, c'est juste que c'est un peu plus cloisonné, là où sur la compagnie on va beaucoup plus solliciter individuellement et sur les temps de travail il y a vraiment une rigueur qui est imposée lors de, ben, quand on parle des résidences, d'histoires occultes par exemple. Il y a la résidence est timée, on a nos horaires de répète, on a notre fil rouge de la journée, il faut le suivre, et on attend les temps de pause pour déconner et se faire des petites blagues. Mais c'est beaucoup plus rigoureux, je pense que c'est ça la différence. Les temps de travail existent des deux côtés, en amateur il y a des troupes qui se donnent vraiment du mal pour faire de très belles choses et de très beaux spectacles. Il y a des niveaux clairement professionnels en amateur d'un point de vue niveau de jeu, ce qui n'est pas la... Enfin, de toute façon, la différence entre l'amateur et du professionnel, c'est le fait d'être soit ton emploi ou pas. Est-ce que tu vis de ça? Est-ce que c'est ton travail? Ou est-ce que c'est un loisir? Et le fait d'être un loisir ne veut pas dire que c'est pas d'un niveau...
Oui, ça ne dit pas de la qualité. Mais...
C'est ça. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais insister un peu, parce que c'est vrai que là, justement, la frontière est un peu fine, et le mot amateur peut parfois résonner comme moins bon, là où c'est absolument pas la question. Il n'y a jamais été question de ça. Il y a énormément de troupes très très compétentes qui fournissent des spectacles de très grande qualité. Et la seule différence, ouais, c'est la rigueur sur les répétitions.
D'ailleurs, vous allez faire un top 3 des... Non, pas du tout. Non, non, on ne va pas noter les ligues. Pas du tout. Dans la partie boulot, en tout cas, que moi je connais de vous deux, c'est que vous êtes aussi formatrice. J'ai pas trop d'avis sur ça. Déjà, est-ce que... ça peut être mal dit, mais est-ce que c'est alimentaire? Et en fait, en soi, si vous pouviez, vous n'en feriez plus du tout. Si vous pouviez en vivre uniquement de ce que vous faites avec Why Not, par exemple. Ou est-ce que en fait ça garde quand même un pied, je sais pas, un espèce de pied terrain, enfin un contact avec les gens qui en fait vous sert dans votre pratique à vous quand même d'avoir parce que vous bossez avec des gamins, vous bossez avec des gens qui débutent, des adultes qui sont plus confirmés, donc en fait vous avez quand même l'occasion de voir un grand panel du monde de l'impro. Mais j'arrive jamais trop à savoir, parce que je me doute bien que forcément vivre en étant comédien n'est pas toujours évident. Et après, quelle est la balance
Moi, je continuerai, je pense. J'en ferai moins, parce qu'il y a une grosse partie...
Parce que je serai blindée. Donc...
Non, je n'ai pas pour ambition d'être blindée. De toute façon, ce serait illusoire d'être comédienne d'improvisation professionnelle blindée. Je pense que ça n'est jamais arrivé.
Bientôt.
Non, je pense que si j'avais les moyens de plus en vivre grâce au spectacle, évidemment, je donnerais moins de cours. Mais par contre, moi, je sais que donner des cours, ça m'aide à fond à prendre du recul sur certaines choses. Ça permet aussi de... En fait, c'est tout con, mais quand t'es en cours, même auprès d'enfants, tu vois des choses que toi, t'aurais jamais fait, et devoir les aborder sous un axe pédagogique, en fait, t'apprends. Enfin, moi, je sais que j'ai l'impression que depuis que j'ai donné cours, dans moi, ma pratique de comédienne, il y a plein de trucs qui ont évolué, et pour le mieux. Et du coup, là-dessus, moi, je pense que j'arrêterai pas, ou que ça finirait par me manquer, que j'aurais la sensation de stagner. Mais il y a aussi peut-être le côté de je suis complètement hyperactive, j'ai besoin de faire plein de trucs, et du coup, c'est stimulant d'avoir les deux.
Ok.
J'arrêterai pas non plus, c'est... En fait, c'est hyper valorisant aussi, même d'un point de vue coach, le fait d'accompagner un groupe, de les voir se développer, de les voir grandir d'un point de vue jeu. Et puis, pour les groupes un peu plus confirmés, là, je pense par exemple au prépa que je peux avoir chez un Pro Academy, le fait de voir que ce que nous, on va leur donner personnellement, ça va changer leur manière de jouer au long terme. On a toutes eu des coachs, on a toutes eu des personnes qui nous ont accompagnés sur notre parcours d'improvisateur, d'improvisatrice. Et du coup, oui, effectivement, faire partie de cet engrenage et de pouvoir participer au...
Engrenage. Est-ce le bon mot? Je suis prise dans un engrenage.
De participer à cette chose.
Libérez-nous.
Voilà.
Moi, j'ai le plaisir d'avoir... Sachez que j'ai le plaisir d'avoir Anissa avec mes élèves en ce moment. Et c'est très, très chouette. On est très fans. Ça fait 3 ans qu'un Pro Academy fait des cours avec ma classe, parce que je suis aussi maîtresse d'école dans ma vie, à mes heures perdues. Et je trouve ça très, très chouette. En plus, mes collègues sont très fans de toi, Anissa. Je pense que je te l'ai déjà dit. Puisqu'on était un peu sur les gens que vous avez croisés, est-ce que vous diriez que vous avez un mentor?
Un mentor?
Un seul, non. Il y a eu plusieurs personnes qui ont marqué mon parcours.
Parce que moi, un mentor, ça peut potentiellement pas être la personne qui m'a le plus appris de choses ou qui m'a retourné le cerveau de dire waouh. Mais je sais pas, des fois, ça peut être juste qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a, qui m'a permis de jouer des fois ou qui m'a remis, sur les rails, je sais pas.
J'ai deux grands noms qui me viennent.
Ouais, moi, c'est pareil, j'ai deux trucs qui me viennent. Vas-y.
Du coup,
deux trucs.
C'est parce que c'est pas que des noms.
Le premier nom qui me vient, c'est à nouveau encore et toujours Corentin Vigouvioli. Parce que ça m'a... En fait, mon profil d'improvisatrice, il a énormément changé. Il y a eu un réel avant-après Corentin sur mon parcours d'impro. Là où avant, pour le contexte...
Donc t'as commencé
Corentin,
à 10 ans.
J'étais au collège. Corentin, j'étais au collège. Mais... je l'ai eu au lycée et je l'ai eu après aussi sur mon parcours impro académique quand j'ai quitté le lycée. Et je pense que c'est le coach qui m'a le plus donné goût au fait de faire de belles impros au-delà de moi passer un bon moment, mais faire du beau jeu. Et je pense que c'est lui qui me l'a insufflé en premier, qui m'a motivé à creuser un peu des formats. Alors, si certains me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai une passion pour la soap opéra, que j'adore cette catégorie. Ben en fait, cette catégorie, la personne qui, moi, me l'a fait découvrir, c'est Corentin. Du coup...
Parce qu'à l'époque, il jouait dans une telenovela, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ceci explique. Il était Pablo. Pablo.
Et en deuxième nom, je dirais Marie Buriga. Parce que ce qui moi m'apparaissait comme des limites en impro, elle me les a vraiment exposées comme des forces et comme des compétences, enfin, tout le côté justement très constructeur, très narratif de ce que je peux produire en impro. Je pense que c'est la première à l'avoir vraiment mis en avant comme en fait ça c'est ta force et fonce là-dedans. Maintenant va vers autre chose, mais c'est ta force et je me suis vraiment sentie très très valorisée par Marie pendant ses ateliers. Je pense que c'est pour ça que c'est les deux noms qui me viennent en premier. C'est d'un point de vue qualité de jeu et d'un point de vue estime de moi au sein de l'impro, je pense que c'est les deux personnes qui ont le plus joué.
Ok. Tu peux pas citer ni Marie ni Corentin.
Ah, je suis obligée de citer Corentin. Pardon, mais... oui, bien évidemment, moi, je pense que Corentin, ça a été le... Enfin, c'est toujours, en fait, en réalité, le fil rouge de mon parcours d'improvisatrice. Parce que pour le coup... j'ai découvert l'impro au lycée et en gros, à part 3-4 mois avant que Corentin arrive, ça a été mon premier prof et mon seul et unique prof d'impro.
Et ami.
Pendant des années. Bon, je sais pas si quand j'étais au lycée, c'était mon seul ami, ouais, grave.
C'est la seule personne qui me parlait.
Mais du coup, moi, j'ai commencé par le théâtre depuis que j'ai 5-6 ans.
De texte, alors.
De théâtre-texte, ouais. Et en fait, arrivé au lycée, niveau emploi du temps, ça collait plus avec la compagnie où j'étais. Et je me retrouve complètement par hasard, parce que j'ai vu un truc qui dit improvisation théâtrale. J'ai vu théâtral dedans, je savais pas ce que c'était que l'impro, j'en avais même jamais entendu parler. Dans un truc qui me dépasse complètement et je découvre cette pratique et c'est trop bien quoi. Enfin depuis j'ai pas su décrocher littéralement et en fait Corentin a été là à ce moment-là. Arrivé à la fin du lycée, moi je m'étais dit en fait c'est une activité scolaire, dans le cadre scolaire je vais pas continuer et c'est lui qui nous a foutu et qui m'a foutu un coup de pied au cul en me disant en fait si inscris-toi dans ce cours-là.
Et puis dire ce qui existe, parce que des fois c'est ça, parce que pas où aller.
Ouais, j'aurais jamais su et bêtement j'aurais arrêté, peut-être que j'aurais cherché une autre compagnie de théâtre. Et puis voilà, ça aurait été la fin de l'expérience. Je sais même pas si j'aurais continué l'impro si lui m'avait pas mis un coup de pied au cul en me disant va Oisem, dans cette salle, tu t'inscris, tu cliques sur tel lien. Et après ça, même chose, qui lui m'a réorienté vers d'autres cours pour monter dans les niveaux, les compétences, vers Marie, comme à Dianissa, etc. Et qui en fait a été un peu toujours là. Après, moi, j'ai commencé à jouer dans des troupes. Il y a eu la BTP d'abord. Et il est revenu me chercher plus tard en me disant « Et maintenant que t'as pris de l'expérience, maintenant que t'as pris du galon, viens, je te fais jouer sur d'autres spectacles de l'extérieur. » Et moi, j'avais eu que le parcours impro académie. Je savais même pas ce que c'était qu'une troupe avant que Rénal vienne me choper par le callback pour me parler de la BTP. Rénal, que j'ai finalement aussi rencontré grâce à Corentin.
Ben oui.
Donc, preuve encore que ça a été un fil rouge. Et ça a été c'était les prémices du collectif à l'époque. Ils étaient deux. Il y avait Corentin et Marco. Et en fait, qui après m'a dit « Hey, mais viens jouer avec nous », enfin, qui m'a donné aussi d'autres opportunités de jeu en plus de la BTP, et qui bah, aujourd'hui me donne la moitié de mon boulot, qui là me réembarque dans une nouvelle aventure avec la baraque Azem et avec plein d'autres choses, et qui en fait m'a poussé aussi pour... Là, j'essaye de devenir intermittente, bah, c'est la même chose, c'est Corentin qui m'a poussé à me dire « Hey, mais en fait, tu peux le faire, vas-y, et même on va t'aider à le faire ». Et où du coup, je pense que lui, ça a vraiment été un mentor pour le coup sur plein d'étapes.
Est-ce qu'il a ce côté lui aussi un peu plus précurseur ? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on n'a pas forcément d'autres refs à se dire de quelqu'un qui est passé pro, quelqu'un qui est.
Ouais, ou alors. D'autres. Ça va peut-être mal sonner, mais d'autres générations, mais de gens qui ont eu des parcours de comédiens professionnels, pas forcément via l'impro, ouais. Et qui du coup ont maintenant des parcours de d'improvisateurs aussi professionnels dans des troupes genre la troupe des Hauts-de-France, la Ligue de Marc, etc., etc. Mais qui pour moi, quand j'étais une petite jeune, enfin je veux dire, je suis sortie, j'ai commencé l'impro, j'avais 17 piges quoi, donc ça paraît très inaccessible comme milieu, et du coup lui, il a eu ce truc de le rendre très accessible. Et je pense que le deuxième switch de ma carrière, pardon, c'est super long, ça a été la CIA. La CIA, ça a été un vrai tournant dans moi, ma pratique. Où avant ça, je me posais beaucoup de questions parce que justement, je pense que j'étais très jeune dans un milieu beaucoup plus âgé que le mien. Et où du coup, je me posais tout le temps...
Bonjour les vieux.
Non, mais enfin... En fait, quand t'as 17 ans...
Oui,
même
oui.
Il y avait plein de gens qui avaient genre 25, 26...
Une jeune adulte.
Qui avaient mon âge de maintenant dans les groupes. Mais enfin, tu vois, quand t'as 17 ans, t'as quasiment 10 ans d'écart déjà.
T'es un ado.
Et là, on peut le dire. Moi, j'étais un bébé ado au milieu des cercles avec Anissa. Et la CIA, je sais que moi, ça a été un vrai tournant dans mon jeu où du coup, jusqu'ici, je me posais beaucoup de questions, je me sentais pas super légitime. Et je trouve que, de manière générale, à la CIA, il y a une manière de jouer qui est tellement légère et en fait, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout, on va tenter des trucs de fou, on va se balancer des pots de bananes. Et en fait, l'impro, c'est pas obligé d'être sérieux. Là où justement, Corentin, comme a dit Anissa, m'a inculqué le truc de les catégories de genre qui, moi, la musique en impro, la chanson, le Shakespeare, les trucs hyper narratifs qui sont, moi, mon dada et ce qui m'anime aussi, que j'ai appris là. Et bah, la CIA, à l'inverse, ils sont venus dire, et tu sais quoi, en fait, l'impro, ça peut juste être trop marrant et débile, et t'es pas obligé de sortir de scène en te posant 12 000 questions et refaire le match 500 fois. Et ça a été une prise de confiance dans mon jeu de malade.
Ok. Est-ce que vous avez un perfect match sur scène ? Donc là, c'est pas forcément une personne qui joue comme vous, mais vous savez que quand vous jouez avec elle,
ça
va rouler.
Mais non, mais en fait, c'est con, mais je pense qu'on serait pas autant tout le temps ensemble si c'était pas le cas. On a des jeux qui se complètent de fou. C'est que là où moi je vais pêcher, elle, c'est là où elle est la meilleure, et vice versa. Et aussi dans le sens inverse, on a des caractéristiques qui se répondent à fond. Je sais pas, je pense genre aux mimiques de visage, les trucs comme ça, où du coup, là, pour le coup, on a des points forts qui se répondent. Et où, enfin, en fait, genre juste naturellement, ça fonctionne trop bien.
Et puis, il y a un truc à prendre en compte, c'est que... Alors, même si je faisais un peu d'impro avant, comme je disais, le vrai tournant en impro que j'ai eu, c'était au lycée.
De mes 10 à 20 ans, en fait, non, l'ai fait un peu avant.
Au lycée, du coup, j'ai rencontré Emma. Et à partir de là, on s'est entraînés ensemble pendant des années et des années.
Vous avez un côté
et dans la
binôme,
vie de tous les jours,
même
c'est ça.
Quand on vous rencontre.
Dans la vie de tous les jours, on se connaît très bien. Du coup, quand on amorce quelque chose sur scène, on sent. En fait, on arrive à sentir un peu là où va l'autre. Et du coup, c'est hyper confortable parce que on sait surprendre l'une l'autre, mais en même temps, on n'est pas décontenancé.
Et on a toujours suivi les mêmes cours. Enfin, même quand elle a été à la Lito, moi.
Oui, donc c'est aussi les rêves qui font que ça roule.
Bah en fait, quand t'as eu même les mêmes profs, les mêmes cours, et encore maintenant, la CIA, on a cours ensemble, bah en fait, t'as juste les mêmes codes de jeu. Donc c'est trop facile.
Et si vous pouviez passer un spectacle dans la peau de n'importe, là, vous vous limitez même pas forcément à la région, de n'importe quel autre improvisateur ou improvisatrice,
Clément Le Prince.
Vous pouvez être cette personne. Ok.
Clément
Le Prince. Vous êtes même pas obligé de le justifier. On peut aussi rester sur...
J'ai pas besoin de le justifier. Je sais, il sait, tout le monde sait. Tout le monde veut être Clément le Prince. Ça doit être formidable. C'est mon rêve. Je veux juste être lui dans la vie de tous les jours.
Non, moi je pense que je dirais Marie Versat.
Ok.
C'était la deuxième réponse logique. Moi j'ai ma réponse tout de suite pour Marie, c'est j'adorerais faire une impro chantée en ayant l'impression de chanter merveilleusement bien et en plus que la chanson soit stylée. J'adorerais faire ça.
Et okay. En plus on serait encore un binôme qui se complète et qui joue super bien ensemble. Enfin je veux dire, c'est juste trop logique.
Ça fonctionne. Depuis que j'ai enregistré le dernier épisode, il y a pas mal de troupes qui ont pop-up. Je pense là par exemple à La Cata ou Bisous Bagarre. Et donc bah je pensais leur faire un petit clin d'œil avec un petit Mary Kiss or Kill.
Ah oh, waouh.
Donc
on a dit que deux.
Ouais. Et on va du coup aujourd'hui j'ai juste ciblé sur Bisous Bagarre, donc je vais vous proposer en photo. Sachez que j'ai les photos dans la main et elles ont une suée. Donc je vais vous montrer les trois photos. Moi j'ai pas d'avis. Je sais que non, la version anglaise c'est Mary Kiss Kill. Dans la version française, je crois que la personne qu'on galoche, on la saute, si je ne dis pas d'ânerie. Nous allons rester sur la version anglaise.
Non, c'est un bisou chasse.
D'accord, donc j'épouse ou j'embrasse ou je tue, et donc je vous présente les trois. Il y aura donc Julie.
Les trois. Non,
David.
Oh non.
Et Ismaël.
Ah, c'est horrible. C'est les trois qu'on connaît le mieux.
Donc voilà, alors toi Anissa, David, Ismaël et Julie, qui tu épouses, qui tu embrasses et qui tu tues?
Si tu ne sais pas, je peux répondre.
Vas-y.
Alors, pour des raisons évidentes, j'épouse David Dodoy, qui est déjà mon mari officieux depuis des années, parce que pareil, on se connaît depuis 10 ans, c'est mon meilleur ami depuis 10 ans.
Okay.
C'est peut-être mon deuxième binôme dans la vie et dans l'artisterie après Anissa, donc bah, je ne peux pas répondre autre chose. Je tue Ismaël Daman. Je le tue parce que c'est mon némésis dans la vie, c'est mon concurrent direct auprès de David Dodoy, donc je n'ai aucun scrupule et il sera très ravi que je lui fasse cet honneur.
Donc
et
ça va galocher Julie.
Je chope Julie, la meuf la plus stylée de la Terre.
Est-ce que tu valides Anissa ou est-ce que toi tu garderais pas cet ordre? Est-ce que tu veux revoir leurs photos?
Moi déjà, je ne peux pas marier David, je pense qu'on se tuerait.
Eh bien je pense que tu peux le tuer, du coup ça peut régler la gueule.
Je marie Ismaël. Oh, ça va me faire mal. David, je t'aime, d'accord? Je t'aime.
Mais tu dois mourir.
Parce qu'on veut trop choper Julie, en fait.
Parce que ouais, je vais choper Julie. Je suis désolée, David. Avec amour, je t'assassine.
Bon, bah, Julie, tu as compris. Voilà, petit coup.
06 82.
Bon, après ces âneries, on va repartir sur des trucs un peu plus sérieux. Est-ce que, ou pas d'ailleurs, est-ce que vous voulez nous parler d'un projet qui n'est pas le vôtre?
Ah!
Et qui d'ailleurs n'est peut-être même pas improvisé. Je n'ai pas précisé, mais est-ce qu'il y a un projet artistique que vous aimez et que vous avez envie de mettre en lumière?
Eh bien oui, et ça va me permettre de faire mon mea culpa auprès d'Ismaël, parce que c'est un projet d'Ismaël. Pour le coup, je spoil, c'est une question que tu nous avais envoyée à l'avance pour qu'on ait le temps d'y réfléchir.
Oui, parce que sachez que bon, certaines questions demandent des fois un peu de réflexion.
Mais du coup, après m'être creusé la tête dans tous les sens en me disant de quel spectacle d'impro je pourrais parler et... qui ne soit pas déjà connu et en même temps qu'on se dise pas ouais mais c'est du copinage et compagnie, je me suis dit bah en fait Ismaël,
est-ce que tu l'as buté pour qu'on puisse dire que ce n'est pas du copinage?
Ouais, moi du coup j'ai pas attendu, j'ai buté aussi.
Okay.
Mais non, du coup Ismaël actuellement il est en train de monter un super projet avec Guillaume,
oui.
un ami à lui. En fait Ismaël organise depuis toujours, au début c'était dans des cercles privés, des murder parties, et en fait là ils sont en train de le professionnaliser pour pouvoir les vendre. Ils en ont déjà vendu certaines avec le théâtre des passagers, là ils sont en train de faire plein de sessions gratuites, donc si vous êtes non improvisateur, non comédien et que vous tombez sur ce podcast par hasard, vous pouvez vous renseigner. Son compte Instagram c'est l'endimanché. Voilà.
Ça part en énorme
il
promo,
il cherche des gens et en fait c'est super. Murder Party, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est, vous avez une super fiche perso avec des secrets, vous connaissez des, vous avez vous des secrets à cacher, vous connaissez des trucs sur les autres, et il y a tout un puzzle à reconstituer avec les informations que chacun a, et c'est une expérience hyper immersive qui dure aller entre 3 et 4 heures selon l'intensité de la session. Et là, ils sont en train de professionnaliser tout ça pour pouvoir soit les offrir à des cercles privés, genre si vous voulez organiser une bête de soirée avec vos potes, ou pour pouvoir le vendre à des entreprises si vous voulez faire le team building de votre life. Et c'est trop bien. Et il m'a donné le droit de vous donner le futur nom qui n'a pas encore été révélé aujourd'hui. Et ça s'appellera Criminarium. Voilà, si vous voulez vous renseigner, notez-le, ça ne va pas tarder à sortir.
Incroyable.
Et ce sera trop bien. Voilà, Ismaël, j'espère que tu me pardonnes de t'avoir tué.
Bien, David, c'est le moment où moi je me fais pardonner pour t'avoir tué également. Moi je vais parler musique, du coup je vais pas parler théâtre, je vais parler de Sundred. C'est un groupe de métal alternatif, si je me trompe pas, sinon il va me taper si je me plante. Mais du coup c'est David Daudruy que vous voyez à la régie, à Bisou Bagarre, à la musique pour le Beans, vous le voyez partout, à tous les rôles.
Cet homme a tout.
Et bien cet homme chante sur scène avec son groupe, donc Sundred. Écoutez bien, Sun comme le soleil et Dread comme les locks.
Notamment pour l'avoir vu passer, il chante aussi du Ariana Grande, si je ne dis pas d'annerie.
Il chante aussi du Ariana Grande.
Absolument.
Cet homme a tous les talents.
Donc n'hésitez pas à suivre leur actualité, ils sortent des trucs assez régulièrement, il y a pas mal de contenu qui est diffusé, dont un univers très complet. C'est pas seulement de la musique, si vous regardez bien, il y a tout un lore très complet, très complexe, qu'on découvre, nous, au jour le jour, d'ailleurs. Et c'est plutôt chouette, n'hésitez pas à aller écouter.
Okay.
Vous abonner sur Spotify et compagnie. Et on sait que vous avez Spotify vu que vous écoutez ce podcast.
Oui, exactement. Mais je suis sur toutes les plateformes, je suis partout.
Et bien, eux aussi. Ils ont un EP qui est sur toutes les plateformes. Et si vous allez checker leur compte Instagram, leur dernier post sur Ariana Grande, justement, et que vous mettez un petit commentaire, il se pourrait que depuis hier, vous ayez accès à de nouvelles choses complètement exclusives que je ne spoilerai pas.
C'est complètement.
Vous allez voir.
Et d'ailleurs, pour le contexte, si vous écoutez l'EP de Sundred, vous reconnaîtrez une voix, celle d'Emma.
Chercher, d'accord. Il faut dire à quelle minute de quelle chanson.
Si vous écoutez genre les deux premières secondes de la première morceau, vous trouverez.
Ok. On va revenir à vous deux, si vous voulez bien. Et ça fait aussi partie des choses auxquelles vous avez demandé de réfléchir avant. Et sachez que les deux m'ont dit qu'elles n'allaient pas dire la vérité à ce sujet et que le premier souvenir qui leur avait pop-up ne pouvait pas être dit. Voilà, ça c'est fait. Et donc c'était. Est-ce que tu as déjà vécu un grand échec improvisé, que ce soit sur scène ou alors plus globalement, dans votre parcours d'improvisatrice? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Ouais, il y a quand même un aspect pédagogique et pas seulement pour dire du mal.
Moi, ça a été la musique, les chansons improvisées. Ce qui peut paraître aberrant maintenant, parce que si vous ne me connaissez pas depuis super longtemps, je chante une impro sur deux. J'ai même fait un solo d'impro entièrement dédié aux chansons improvisées. Le dernier spectacle que j'ai joué est un spectacle musical.
Parce que c'est pour exorciser aussi, c'est ça la question.
Non, mais en fait, moi, j'ai toujours surkiffé la musique et à côté de ça. J'en ai fait, etc. Avant ça dans mon parcours. Et du coup, en fait, je pense que je sacralisais ça au max et je me mettais une pression pas possible. Et Corentin adore les chansons improvisées et il a toujours essayé de nous transmettre ça. Et moi, pendant des années, mais c'était une souffrance. J'avais l'impression de
pas savoir
comment faire. Dès que c'était la dernière, je me disais, ok, j'ai beaucoup joué pendant le spectacle, je vais pouvoir l'esquiver. Et vraiment. Je savais pas par quel bout prendre ça. Je pense que je me mettais une pression de fou sur le fait que ça devait rimer, que ça devait être. Qu'il fallait bien chanter, alors qu'en vrai, que ce soit l'un ou l'autre, on s'en tape royalement. Si on y met le rythme, l'intention, en fait, ça vient souvent tout seul. Et un jour, je me suis secouée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me forcer à monter sur tout à chaque fois. Je vais faire des stages, je vais faire des ceci, je vais faire des cela. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est juste trop marrant. Enfin, en fait, ça mélange deux trucs que je kiffe. C'est complètement absurde que je me mette une pression pas possible. Et depuis, je ne fais que ça.
Bah ouais, c'est marrant que ça te. Mais t'as déjà. Est-ce que toi, t'as déjà complètement foiré, genre ta première? Est-ce que la première fois que t'as fait une tentative, t'as eu une énorme suée et c'est passé ou c'est resté là?
C'est lointain, mais je pense que j'en ressortais avec des souvenirs de moi qui me jugeais énormément. En fait, ça se trouve, les impros étaient bien, mais juste moi, de mon regard extérieur,
oui, tu,
je me
oui, disais,
mon
ça.
Dieu, mais qu'est-ce que je viens de produire, c'est horrible.
Sachez qu'on sort quand même d'une année où Emma et Clément m'ont formé en comédie musicale improvisée, donc je confirme ouais, que Emma aime chanter fort et beaucoup.
Mais ouais, non, au début, ça me mettait à fond dans ma tête, mais parce que justement, je pense que c'est quelque chose... Enfin, c'est une catégorie à laquelle je mettais beaucoup d'importance, et du coup, j'avais juste, je pense, un regard trop dur, alors qu'en fait, des fois, ça peut juste être fun et débile, quoi. Mmh. Et du coup, je me suis dit, comment l'enseigner, parce que c'est un truc qui est hyper sacralisé pour plein de gens. Et du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, à partir de moi, comment on me l'a enseigné, de comment je l'ai vu ailleurs, comment est-ce que je pourrais essayer de le dédramatiser en l'enseignant aux gens de manière cool pour, après ça, que ce soit pas, que ça n'ait plus l'air d'être une montagne.
Ok, c'est vrai qu'il y a ce côté de se dire, ouais, moi, je suis improvisé, mais je suis pas un chanteur, en fait. Donc, il y a des gens, je sais pas, ils détestent leur voix quand ils chantent. Et souvent, ouais, c'est ça qui les bloque, alors que, bah, je
alors,
crois pas que
vrai,
ça...
on fait du chanter-parler.
Oui, voilà, je pense que ça t'empêche pas, en tout cas, de la jouer.
Ouais.
Non, c'est sûr.
Et toi, Anissa, le grand échec, on veut du...
Mon grand échec, qui est plutôt récent, enfin, récent, c'est relatif, mais c'est le spot impro.
Ah oui, c'est vrai que c'est une défaite chronique.
C'est ma quatrième défaite cumulée de spot impro. Les premières fois, je l'ai vraiment pas très bien vécu. Les deux premiers, je pense, ça a été compliqué.
Genre, est-ce que tu penses qu'il y en a un qu'on t'a volé?
Il y en a un qu'on m'a volé, ouais.
Ah, la tête d'Emma, et oui, bon, c'est un oui, un grand oui.
Mais étonnamment, je pense que c'est du coup
celui que j'ai le mieux vécu.
Bah ouais, parce que c'était tellement évident. Pas la frustration de peut-être c'est moi le problème.
C'est ça.
Donc, je me suis pas remis en compte sur celui-là, mais les quatre autres fois, oui.
Bah, c'est pas tout à fait ça. Mais le premier, vraiment, je l'ai eu mauvaise. Mauvaise, pas au sens où j'étais dans mon coin à me dire j'aurais dû gagner, gnagnagna. Pas du tout. Je l'ai eu mauvaise parce que j'étais très déçue de moi. J'étais. Plombée par le spectacle, j'avais l'impression de pas avoir assuré, mais du coup c'est
très ciblé. T'avais pas fait ton jeu quoi finalement, ou t'as pas fait ce que tu voulais, ou
pas senti tip top, celui pour okay. Autant où j'étais plus loin dedans, c'est pour ça, ça pris avec du recul, ça fait souffler. Mais celui-ci, je sais que j'avais vraiment pas bien vécu, et je me dis waouh, je sais pas si je retenterai un jour l'expérience. Finalement, Corentin me propose, je dis oui, donc je retente. Ça remarche pas. Pareil, je suis assise sur mon petit fauteuil, enfoncée dedans, à respirer, à dire c'est pas grave. En fait, c'était très grave dans ma tête à ce moment-là. Et vient l'échec de celui-ci. Du coup, c'est celui, je crois que c'est le deuxième, du coup, que j'estimais qu'on m'avait dérobé. Mon deuxième spot impro, je ressors de là en me disant, mais franchement, je comprends pas.
Oui, celle-là, c'était mon
truc. Injuste. Là, c'est injuste. Et ce qui m'a rassurée, c'est de voir que ceux qui, pour moi, méritaient énormément de gagner, ceux qui avaient super bien joué sur ce spot impro, étaient éliminés aussi. Et en fait, je me suis...
Les gens ont juste des goûts de chiottes.
Mais en fait, c'est pas ça, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est un jeu. C'est, allez, oui, on va se passer, on va redescendre. Tu vas redescendre de ton petit nuage de culpabilité et d'auto-sabotage, et tu vas respirer. Tu vas te rendre
oui, puis fait, on n'a pas tous. Enfin, je sais pas, en tant que spectateur, jeu. On n'attend pas tous la même chose.
C'est ça.
Pour ouais, toutes les gens qui m'ont parlé de ça, en fait, je me disais, ah bah. Je leur disais, bah, joue ce que toi t'aimes bien jouer, parce que tu peux pas savoir si ce soir-là, les gens, ils étaient plutôt dans une optique belle histoire, plutôt c'est rire, ça. Plutôt ils ont aimé, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui peut avoir plu, qui toi t'échappe. Mmh. Et puis, c'est juste pas ta manière de jouer, donc c'est pas grave.
C'est ça. Et du coup, je suis ressortie de là, un peu déçue quand même. Alors, même si je m'étais mitraillée le cerveau en me disant, tu vois, c'est pas grave.
Tu vas perdre.
C'est perdu maintenant. Je sors de la salle et je pense que c'est de tous les spectacles que j'ai vécu de ma vie, c'est probablement celui où j'ai eu le plus de retours positifs, le plus de félicitations. Et à ce moment-là, je dis, ok, je repars. Loser à nouveau du spot impro. Mais en fait, je ressors de ce spectacle plutôt satisfaite
contente.
De ce que moi j'ai fourni sur scène, de ce que le spectacle a donné de manière générale, et c'est tout, c'est pas grave. Et je l'ai refait deux fois derrière, je l'ai reperdu deux fois derrière, mais c'est deux fois je suis ressortie en me disant bah c'est pas grave, en fait je m'en fous, je viens pour jouer, je viens parce que c'est galvanisant, parce que c'est un format qui change de ce que je peux faire en dehors. Et je sais que le dernier, je suis arrivée hyper enthousiaste en leur disant hey, regardez qui est-ce qui va rebattre son record de défaite du spot impro, regardez c'est moi, allez-y, c'est trop bien. Et quand j'ai effectivement pas passé le second tour, j'avais Mathieu Bourrel à côté de moi qui se retourne vers moi, oh non je suis désolée, et moi j'étais juste trop contente
comme d'hab.
Et en fait, si je l'ai mis dans cette catégorie d'échec, et en quoi il est important, enfin en quoi il m'a apporté quelque chose finalement ce spectacle, c'est que j'ai un rapport à l'échec qui est catastrophique. Hein. Alors ça, pour tous les élèves que j'ai en atelier avec qui j'ai rapport à l'échec, voilà, c'est mon mea culpa. J'ai énormément de mal à digérer le fait de pas assurer. Et en fait, ce spectacle m'a un peu réconcilié avec le fait de perdre. C'est pas grave en fait de perdre, et c'est un truc sur lequel j'avais du mal. Alors, même sur les matchs, sur les catchs, je suis très compète dans l'âme. Et ça m'a permis de redescendre un petit peu là-dessus.
Sachez que là, Emma a le visage serein de celle qui l'a déjà gagné.
Alors, pas du tout, c'est parce que j'allais rebrayer en disant, en fait, c'est que c'est un travail de. Quand tu démarres dans une pratique artistique où il y a pas mal de spectacles qui en fait sont des formats compétitifs. On n'arrête pas de te répéter qu'on s'en fout de qui gagne ou qui perd, l'important c'est de faire un bon spectacle.
Et puis il y a l'ego, il y a le petit truc qui fait que...
T'as quand même envie de gagner, parce qu'on a beau te le répéter, tu te dis, bah jusqu'ici, toi, ce que t'as vu, c'est du sport, du machin, du truc, où en fait, gagner, c'est important. Et où... Bah en fait, ouais, c'est un travail de se dire, j'ai envie d'assurer un spectacle, le fait que je le perde, ça veut pas dire que j'ai pas assuré.
Ouais.
Parce qu'en fait, on s'en fout complètement.
Moi, je t'ai déjà vu faire gagner les spots aux autres, en te retrouvant à dire, bon, bah maintenant, je suis au service, donc
ouais, bah, moi, typiquement,
vas-y, je te donne tout.
Typiquement, mon premier spot, Nico, si tu écoutes ce podcast, j'arrête pas de lui dire qu'il a gagné grâce à moi, alors que pas du tout, il a gagné parce qu'il a été génial sur toute la date.
Et puis il vient de le regagner s'il avait un doute envers lui-même.
Et il en a gagné pelleté. Enfin, ça a été le premier à en gagner plusieurs.
Si vous pensez que Nico a gagné le deuxième grâce à vous, envoyez-moi un petit message en MP.
mais typiquement, mon tout premier spot impro, je sors premier tour.
Comme une merde.
Je me dis, bah, c'est pas grave, parce que deuxième round, on a quand même le droit de jouer une impro avec les autres. Je tombe avec Nico, qui est le
copain. Mais vous êtes bien éclaté,
Léo,
ouais.
Qui est super, et on fait une impro de fou malade, qui effectivement a la meilleure note de toute la deuxième partie, qui propulse Nico en finale. Je dis pas que c'est de mon fait, mais du coup, moi, je ressors de là.
C'était aussi grâce à toi, en tout cas.
Ouais. Mais trop contente quoi, de se dire, bah ok, peut-être que effectivement c'est frustrant de le perdre parce que t'as quand même un peu envie de gagner, t'as la gagne, mais trop content d'avoir pu aider à jouer dans ce spectacle quoi.
Carrément. Parce qu'en plus c'était les deux finalistes, donc t'as participé à leur.
Ouais,
finalement t'as participé à leur victoire.
Est-ce que vous. Ouais, il n'y aura pas de transition, mais c'est mon émission, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que être une meuf dans le milieu de l'impro, ça a quelque chose de spécifique? Ou pas d'ailleurs?
Moi j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je sais pas si c'est tant être une meuf qui a été difficile ou facilitant à un moment, je pense que c'était couplé au fait d'être très jeune.
Oui, j'avoue que c'est vrai que vous avez démarré le jeunisme, l'âgisme peut jouer.
Moi j'en ai parlé du coup tout à l'heure quand j'ai expliqué mon parcours et parfois le sentiment de manque de légitimité que j'ai eu, et je pense qu'effectivement être très jeune plus être une des rares meufs, attention, hein, j'ai toujours eu des meufs dans mes ateliers et compagnie, mais c'est quand même majoritairement une pratique où il y a plus de mecs, et surtout plus tu grimpes en level, moins il y a de meufs et plus il y a de mecs.
De moins en moins, cela dit.
Ouais,
on apprécie.
C'est
moi, je vois la différence depuis mes débuts.
Et les meilleurs sont des femmes, encore un énorme big up à Marie que tu as cité tout à l'heure.
Non,
Marie et Marie, d'ailleurs, les deux, qui sont des légendes absolues. Mais ouais, je pense que moi, du coup, j'avais un gros manque de légitimité. Mais je sais pas si c'était tant lié au fait d'être une fille, mais vraiment lié au fait de me dire, bah ouais, mais du coup, je fais que débuter. Alors qu'en vrai, ça avait 5-6 ans.
Que t'as l'impression.
C'est parce que j'avais 10 ans moins que les autres, mais.
Est-ce que tu crois que les meufs, elles jouent différemment des gars, en fait? Est-ce qu'ils. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée. Et d'ailleurs, même quand j'avais créé Meuf, souvent les filles disaient, est-ce qu'on doit jouer que des fins? On ne savait pas quoi faire. Et moi, j'ai plutôt dire, je crois que je ne vais pas jouer différemment.
Je pense que des fois, elles sont obligées parce que ça arrive. Et alors, là, plus dans des cercles débutants, mais tu tombes sur des gros lourdeaux qui sont en mode, ah bah, comme il y a une meuf sur scène, on va faire le gros lourd, etc. Et du coup, dans ce cas-là,
petite tendance à la disparition, heureusement.
Ouais. C'est vrai.
C'est vrai.
Et tant mieux. Mais du coup, t'es un peu des fois obligé de monter sur tes grands chevaux en disant, bah, en fait, si tu veux jouer à ça...
Je suis la boss de cette scène. Voilà.
Clairement.
Pas la soubrette.
Ouais. Genre, et du coup, là, t'es un peu obligé de sortir de ton registre habituel pour dire, bah, en fait, non, c'est... On joue à jeu égal et si tu veux jouer à qui est le plus con, félicitations, je suis très très débile. Mais sinon, non, je pense pas. Ouais, peut-être que des fois il faut jouer plus intelligemment ou jouer plus malin pour trouver une place quand c'est des égos qui prennent un peu de place. Mais effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça se perd de plus en plus. Mais peut-être que le fait aussi de monter en niveau fait que tu tombes sur des gens qui sont suffisamment intelligents et... Pour pas juste te considérer comme une meuf qui fait de l'impro, mais juste comme quelqu'un qui fait de l'impro à bon niveau, et du coup, c'est pas... Ça arrive, en vrai, de devoir faire face à des égos et de devoir monter sur ses grands chevaux, mais de moins en moins.
Ok.
Alors, je vais aborder un sujet, et ça y est, je mets les deux pieds dans le plat. J'espère que vous êtes prêts. Petit trigger warning.
Ok.
Ça va tirer à balle.
Allez, mais on y va.
Alors, comme on l'a mentionné à maintes reprises, je fais de l'impro depuis que je suis enfant. Du coup, j'ai découvert l'impro dans un registre d'enfant, donc dans un registre où je n'étais pas sexualisée.
Oui.
Et ça a été le cas très longtemps. Au lycée, c'est resté le cas. À Impro Academy, c'est resté le cas jusqu'au jour où j'ai fait mon premier catch en externe. Donc,
et donc, tu étais adulte première... ou tu étais ado?
J'avais 19 ans.
Ok.
J'avais 19 ans.
C'est un bébé adulte.
Un bébé adulte. Et j'ai fait mon premier catch avec une équipe que je connaissais pas. Et vient le moment où on parle de la taille de mes seins sur scène. Alors, absolument sorti de
hors de hors contexte,
part.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est
ce n'était pas le thème, la taille de tes seins n'était pas le thème de cette histoire.
Mais de nulle part, et je me souviendrai toujours de ce moment de frise et de terreur que j'ai eu sur scène. De, oh,
j'étais pas prête, quoi.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Pourquoi on parle de ça? Mais ça va pas la tête. Et juste de pas avoir su réagir à ce moment-là. Parce
et
que...
c'était un match, un catch. C'était
un catch.
Ah oui, donc plus dur peut-être. Oh, si l'arbitre aurait pu arriver en roulade avant.
Ouais, mais en fait, les blagues de cul, elles sont tellement répandues dans le milieu de l'impro que...
Et en général, je crois.
Ouais, c'est ça. Que, en fait...
Oui, il y avait rien.
Il y a un problème de... Bah, en fait, c'est est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il y a rien? Est-ce que c'est juste une blague de cul comme ça et c'est ok?
Bah, en l'occurrence, comme toi, ça t'avait mis mal à l'aise. Est-ce que tu penses que la personne qui jouait avec toi a capté?
Absolument pas, ça a absolument pas été capté. Mais en fait, c'est juste que j'utilise cet exemple-là parce que c'est le premier, c'est la première fois que c'est arrivé.
D'une longue série.
D'une longue série, malheureusement. Mais je pense que c'est ça qui change le plus quand on est une femme sur scène, c'est la sexualisation qui peut arriver très facilement.
Ouais.
On est très facilement associé à un personnage lié à... au couple, on sera très souvent mis dans des relations sentimentales, qu'on le veuille ou non. Je sais que très souvent, quand je joue une impro, je finis dans une relation sentimentale avec un des personnages.
Okay.
Et c'est intéressant, et c'est un registre que j'aime bien jouer, que j'ai déjà joué, mais je ne veux pas faire que ça, et je veux pas que ça me soit imposé sur toutes les scènes que je fais.
Est-ce que tu as l'impression que c'est jamais toi qui l'amène ?
C'est pas jamais moi qui l'amène. C'est pas jamais moi qui l'amène, il y a même plusieurs fois où c'est moi qui aime bien jouer ça. Mais c'est pas parce que j'aime bien jouer ça que je dois jouer que ça et être enfermée là-dedans.
C'est pas assez varié sinon.
Ouais. C'est ça. D'où ma passion pour jouer des objets.
Non, et du coup, c'est des niveaux. En fait, il y a une vigilance des arbitres à avoir de qu'est-ce qui est un comportement normal et qu'est-ce qui est border et faire attention au bien-être des comédiens, comédiennes sur scène, quoi. Et des fois, j'ai l'impression que les arbitres font très attention au décorum, mais qu'ils en oublient la fonction première de l'arbitre qui est assurer le cadre safe de.
Absolument.
Oui, alors il y a des arbitres qui sont géniaux. Attention, je ne casse pas du sucre sur tous les dos d'arbitres, mais il y a des fois où on se dit oh, l'arbitrage léger, quoi.
Ouais, où ça a pu lui échapper. Bon, après, il faut le coup, dire, du coup.
Moi, en entendant Anissa parler, c'est vrai que j'y ai pas pensé quand t'as posé la question sur le fait qu'on nous attribue des rôles. Moi, je sais que à l'inverse, j'ai tendance à jouer énormément des gros personnages. Et bah, je joue tout le temps des mecs sur scène. C'est pas moi qui décide parce que je rentre pas en disant je suis un mec. Je rentre en disant je suis le gros machin truc. Et du coup, on va me genrer en heal en partant du principe que si je joue des personnes.
Alors que toi, pas forcément. Tu disais forcément que j'étais un gars.
Mais c'est même pas un truc que j'ai conscientisé pendant longtemps. C'est un truc qui a été conscientisé par Corentin Vigoujoli.
Oui, mais après.
Une fois de plus, qui m'a dit mais t'en as pas ras-le-bol que tout le monde te genre au masculin sur scène. Et j'ai fait putain, mais merde, c'est vrai en fait. Comme je joue des archétypes de personnages puissants, forts, qui ont une grande gueule, qui
oui,
ont des gros
les références collectives sont plutôt...
Et bah, d'office, si, ouais, c'est ça. Si je rentre, que je fais un pirate, que je fais une inspectrice ou un truc comme ça, bah, comme c'est un perso un peu charismatique, on va partir du principe que c'est un perso masculin et pas féminin. Alors qu'en fait, je peux être un pirate beauf féminin. Je peux être
Est-ce que tu te mets à balancer ton prénom dès les premières phrases systématiquement pour ouais. que les gens captent?
Bah, du coup, j'ai essayé de trouver des stratégies, d'en parler des fois avant les spectacles, des trucs comme ça. Et en fait, ça arrive moins maintenant. Mais ouais, c'est un truc que moi, du coup, j'ai capté dans l'inverse de... Bah, quand t'es une meuf et que tu joues des persos forts, on va partir du principe que tu joues pas une meuf, mais un mec. Mmh. Et à l'inverse, les mecs qui jouent des meufs, c'est jamais pas cliché et problématique. Ou c'est très rare.
Oui, oui, c'est vrai. C'est, on a des... Oui, bah,
c'est
même...
toujours... Ah là là, je suis... Ah non, non, non.
Mais est-ce que tu penses aussi, parfois, par peur de... Justement, en disant, si je force pas le trait avec des archétypes...
Que ce soit pas compris.
Ouais, que ce soit pas compris. Est-ce qu'ils se disent pas...
Oui, on se dit pas. Hein, nous, les meufs, quand on joue des persos masculins aussi, hein, ça nous arrive de forcer le trait. Mais ouais, il y a peut-être un truc à réfléchir là-dedans aussi, quoi. Je dis pas que c'est tout le temps problématique. Je dis juste que c'est... Un schéma récurrent.
C'est la question un peu profonde de cette émission. On vous laisse y réfléchir et commenter. Je vais avoir des masculinistes qui déboulent dans les commentaires.
Les gros masculins.
Mais abonnez-vous. Merci. On va finir sur ça. De quoi vous avez envie pour l'avenir? Proche ou pas d'ailleurs, mais à quoi vous aspirez? Plutôt... En impro, vous pouvez nous parler de vos vies, il n'y a aucun problème. Mais...
Non, mais c'est j'ai un petit projet qui me trotte en tête et qui. J'en ferai un truc un jour, mais ça a un lien avec l'impro. J'ai toujours aimé organiser des spectacles, j'ai toujours aimé organiser des événements. Et j'ai un gros objectif de vie à organiser un spectacle multiculturel avec différents types de disciplines, dont de l'impro. Et juste que ça croise, que les univers se croisent, qui est... Enfin voilà, de créer un projet dans ce genre-là, c'est en grosse réflexion, ça nécessite énormément de temps, de travail.
Oui, c'est pas pour tout de suite, mais c'est...
Non, c'est du plutôt long terme que du moyen terme.
Ok.
Moi, j'ai honte de passer après ça, parce que j'ai pas de projet si stylé, hein.
Ouais, mais je sais pas, ça peut être juste... Comment toi, tu t'imagines...
J'aimerais devenir intermittente du spectacle.
Bah
de
ouais, non, mais... Bah,
qui me donne des cachets, s'il vous plaît.
C'est stylé de dire, j'ai envie de vivre de ma passion, de l'impro. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent.
Ouais.
C'est un sujet.
En fait, moi, là, je pense surtout court et moyen terme. J'ai tellement de projets qui sont en cours de floraison actuellement que juste bah, aller au bout de ces choses-là, les faire vivre, déjà, ce serait super. Réussir à devenir intermittente, ce serait super. Et continuer. En vrai, là, mon gros objectif depuis un an et demi, deux ans, c'était de jouer plus. Parce que, avec les cours et avec le temps que j'avais en moins, je faisais beaucoup de prises ou beaucoup de coordination sur des dates, des trucs comme ça. Et alors, je dis pas que je jouais pas du tout, mais je jouais beaucoup moins qu'avant, où j'avais un rythme effréné, où je jouais peut-être même beaucoup trop. Et là, je recommence depuis un mois ou deux à rejouer plus. Et ça, c'est cool. Donc, continuer à trouver ce rythme de croisière, de jouer un petit peu et pas juste faire de la prise. Voilà. Okay. C'est cool.
Avant qu'on termine, je fais toujours un petit instant promo. Les gens m'ont envoyé des dates. Et bah, si je ne cite pas votre troupe, et bah, c'est tout simplement que vous ne m'avez pas écrit. Regardez mes stories. Aimez-moi. Donc là, pour les prochains spectacles, parce que je vais sûrement sortir l'émission bah, là, cette semaine. Le 13 février, il y a la Team Impro qui joue à l'Audito de Tourcoing. Le 20 février, il y a un full impro à l'ODB. 27-28 février, ça sent un petit week-end CIA. Le 27, il y a un match CIA Belgique au Théâtre des Sources de Saint-Amand. Et le 28, je pense les mêmes jouent Il était 4 fois. Et après, en mars, d'ici là, ce que j'enregistre à nouveau, le 3 mars, il y a la Lito qui catch aux Enfants Terribles. Et le 15 mars, il y a un Bins Impro, mais j'ai pas trouvé le lieu, donc allez sur leur réseau pour trouver. Les filles, merci beaucoup d'être venues, ça m'a fait très très plaisir.
Nous, on a le droit de faire notre promo à nous.
Faites votre promo perso, mais bien entendu.
On en a parlé tout à l'heure, allez. Mais le 21 février, on joue Soliloque, le concept de Why Not avec des solos d'impro. Du coup, c'est moi et Anissa qui jouons, et on a deux super invités qui seront révélés cette semaine.
Ouais,
sur les
réseaux sociaux,
branchez-vous. Ça se passe au bus magique, c'est à Lille.
C'est ça l'info qui nous manquait tout à l'heure.
À pied et en transport en commun, vous n'avez
et en péniche,
aucune excuse. C'est dans une péniche, c'est super stylé. Donc donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. Puis voilà, je sais pas si toi t'as de la promo perso.
Non, j'en ai pas. Aussi, j'ai une promo. Avis aux improvisateurs, improvisatrices, si vous faites rien pendant les vacances scolaires, n'hésitez pas à vous inscrire au stage KPEP que j'anime sur la. C'est le 19 et 20.
Oui.
Et on fait du combat de scène, on fait du combat de joute verbale, etc. On s'immerge dans l'univers des trois mousquetaires et plein d'autres choses.
Et si vous ne savez pas quoi faire, le 19 février, en sortant du stage d'Alissa, on joue avec le collectif 9h36 à Garage. Pareil, c'est boulevard Carnot, c'est littéralement à 3 minutes à pied de la gare Lifland, vous n'avez aucune excuse. Le Cool Chick Club, c'est un concept qui mélange de l'impro et du karaoké, ce qui sont littéralement les deux pratiques les plus cool de l'histoire de l'humanité. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne viendriez pas.
Même moi, je vais pouvoir y aller cette fois-ci, et ça, c'est fou.
Ok, et ben merci les filles, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Des gros bisous.
Bisous. Salut.